Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour à tous. Ce matin, le tombeau est vide. Le corps de Jésus, déposé 2 jours plus tôt, est revenu à la vie. Ce sera le sujet de notre méditation ce matin. 4 récits. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a déjà eu l'occasion d'entendre l'un ou l'autre. On ne va pas les relire. Je vais en faire un résumé pour montrer ce qui est semblable et ce qui n'est pas tout à fait semblable. Résumé avec la chronologie des événements et des personnages en présence. Dans Matthieu, on a Marie de Magdala et l'autre Marie. On a un tremblement de terre, un événement surnaturel et un ange qui descend du ciel et qui roule la pierre. Il y a des gardes, ils sont sidérés comme morts. L'ange dit, ne craignez pas, il est ressuscité. Et rendez-vous en Galilée avec Jésus, alors elle court porter la nouvelle aux disciples. Mais immédiatement, elle rencontre quelqu'un qui leur dit, ne craignez pas. Et c'est Jésus. Les autorités religieuses achètent le silence des gardes et suggèrent la version du corps dérobé pendant la nuit. Ils confirment ainsi leur collaboration avec l'occupant romain. Dans l'évangile de Marc, on a Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, qui s'apprête à embaumer le corps de Jésus. Dans les traditions funéraires de l'époque, dans le tombeau, le corps était enveloppé dans un linceul et il reposait sur une dalle, une espèce de pierre plate, et on mettait des aromates pour neutraliser les odeurs de décomposition des chairs. Il fallait embaumer la dépouille, cela pouvait se faire quelques jours après la mise au tombeau, et pour l'occasion après le repos du sabbat. Dans les traditions funéraires de l'époque, seuls les os étaient finalement récupérés et rassemblés pour être gardés. Elles arrivent, les trois femmes citées, elles arrivent, la pierre est déjà roulée. Et dans la tombe, on voit un jeune homme vêtu d'une robe blanche qui les effraie. Ne vous épouvantez pas, il est ressuscité, et l'endroit où le corps a été déposé 3 jours avant est vide. Rendez-vous en Galilée. La peur et le trouble les avaient saisies, elles s'enfuient et ne disent rien à personne. Chez Luc, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus préparent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Elles arrivent au tombeau le lendemain, là aussi la pierre est déjà roulée, elles entrent, le corps du Seigneur Jésus n'est pas présent. 2 hommes leur apparaissent en habits resplendissants. Ils leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Elles se souviennent des paroles de Jésus qui annonçaient sa mort et sa résurrection. Elles rejoignent les 11 et rendent compte de leur mésaventure. On sait finalement que c'est Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle, qui étaient présents. Les 11 ne croient pas les femmes. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Mais quand même, Pierre se lève et court et constate que les linges qui entourent le corps étaient à terre. Chez Jean, Marie de Magdala, le matin, trouve la pierre ôtée du sépulcre. Elle court direct vers Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait pour dire que ce corps a été déplacé et mis on ne sait où. Pierre et l'autre disciple courent et constatent chacun que les bandettes sont à terre et, comme on a lu, le linge qu'on avait mis sur la tête plié dans un lieu à part. Ils voient et croient, mais ils ne comprennent pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. À nouveau, Marie de Magdala en pleurs voit 2 anges qui l'interrogent sur son chagrin et, en se retournant, elle rencontre Jésus vivant qu'elle prend pour le jardinier. Mais à l'énoncé de son nom, elle reconnaît Jésus et lui répond « Rabouni, maître ». Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. D'accord ? Et alors, qui dit la vérité ? Non mais, on a quatre histoires, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est important ou pas ?
Il est ressuscité.
Comment ?
Il est ressuscité.
Il est ressuscité et c'est ça qui change tout. Voilà. Donc, chacun des rédacteurs des évangiles donne sa version. Combien de femmes, à part Marie de Magdala citée par tous, Marie mère de Jacques, Salomé, une Jeanne, les autres venues de Galilée, un tremblement de terre ou simplement une pierre roulée avant la levée du jour, un tombeau gardé par les soldats ou pas, les disciples lesquels viennent se rendre compte par eux-mêmes, Pierre, Jean. Alors, essayons d'éclaircir pour ne pas tomber dans le travers qui mettrait en doute la réalité de l'événement. D'une manière générale, l'histoire du tombeau vide a d'abord été transmise par la tradition orale, et ce n'est que quelques dizaines d'années après l'événement que les différents auteurs mettent le déroulement par écrit. Alors, quand on essaye de se souvenir d'un événement du passé, les certitudes quant aux détails du déroulement deviennent imprécises. Et dans l'évangile de Marc, on trouve même un post-scriptum qui apparaît comme ça, qui semble avoir été rajouté a posteriori par un auteur qui pourrait même être autre que Marc. Enfin, d'après les commentaires. Toute une collection d'arguments en découle pour mettre en cause la réalité de l'événement. Mais, d'une manière générale, et ça c'est dans le droit commun, comme on dit, les témoignages de ceux qui assistent à une scène vont certainement diverger, mais cela ne signifie pas que l'événement n'a jamais eu lieu. Donc même si on raconte l'accident, il est venu par là, il est venu par ci, comme ça, puis on y va, il raconte pas, ça veut quand même dire que quelque chose est arrivé. Quoi. C'est pas parce qu'on en parle différemment. D'une manière générale, aucun des protagonistes, femmes, disciples, gardes, dont les écrits attestent la présence au tombeau, ne croit en la résurrection a priori. Simplement parce que les croyances, la culture qui influence leur perception des événements, suggèrent l'impossibilité de la résurrection. Quand on est mort, on n'est plus vivant. C'est humainement universel. Dans le judaïsme, il y avait effectivement une croyance quand même en une résurrection finale et collective. Par exemple, Marthe, quand son frère Lazare est pris pour mort, elle répond à Jésus, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Jean 11, verset 24. Mais malgré toutes les allusions de Jésus pendant sa vie terrestre et son enseignement, même ses disciples, son entourage le plus proche, ne pouvaient croire à la résurrection. L'idée que Jésus était le Messie était rentrée peu à peu dans leur tête. Mais là, après cette suite d'événements, l'entrée triomphale le jour des rameaux, le repas de Pâques avec l'institution de la Sainte Cène, la trahison de Judas, l'arrestation par les autorités religieuses, la remise aux autorités romaines, le procès truqué, l'humiliation, l'agonie et la mort sur la croix ne correspondaient absolument pas à l'attente que le peuple juif avait d'un Messie, libérateur tout puissant. Le message, l'enseignement de Jésus était tellement révolutionnaire qu'une fin aussi brutale était inattendue. Ce qui vient de se passer est la fin d'une espérance. D'où la difficulté, malgré l'évidence du tombeau vide le lendemain du sabbat, d'attester une résurrection corporelle du Christ Jésus. Le jour de la crucifixion, personne ne songeait à dire « Oh, vous n'en faites pas, il réapparaîtra quelques jours plus tard. » Le pouvoir de l'occupant romain est affirmé. Le supplice de la crucifixion était une affirmation de leur autorité et cherchait à intimider pour avoir à gérer facilement une population qui craint le pouvoir afin qu'ils puissent maintenir l'ordre efficacement. Et pourtant, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce constat a été à l'origine d'une espérance nouvelle pour le christianisme, des premiers siècles d'abord. Après la mort, un séjour temporaire dans la présence de Dieu et de son Fils, prélude à une résurrection à l'image du Christ pour une existence corporelle dans un monde restauré à neuf. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Quand on est mort, effectivement, il y a un passage temporaire en présence de Dieu, et après il y a une résurrection corporelle dans un monde, une création qui reste. On trouve ça dans la Bible, c'est pas des mauvaises idées. Malgré la diversité culturelle des premiers chrétiens issus du judaïsme et du paganisme de différentes traditions, tous s'accordaient sur cette compréhension de la vie après la mort et d'une résurrection corporelle ultérieure, avec à l'image de Jésus un corps différent de celui d'avant la mort, reconnaissable mais pas identique, confère Marie de Magdala, les disciples d'Emmaüs qui croisent Jésus mais qui ne le reconnaissent pas directement, avec des traces physiques, les cicatrices de Jésus qu'il montre à Thomas, et des possibilités nouvelles d'apparaître et de disparaître, même dans une entrer dans une maison avec porte et fenêtres fermées, et de partager un repas ensemble, donc un corps qui mange. La résurrection de Jésus se place au centre de la foi, alors qu'elle était parfaitement secondaire avant la venue de Jésus sur terre. La foi en la résurrection est au centre des évangiles et des écrits du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, Paul écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Pour le christianisme primitif, croire en la résurrection incluait la conviction que le nouveau corps, tout en étant sans aucun doute un corps dans le sens d'un objet physique et non spirituel, pas simplement une âme désincarnée, existait dans l'espace et dans le temps. Un corps transformé, dont la composition matérielle serait formée à partir de son ancien matériau, mais avec de nouvelles propriétés. Cette compréhension est actuellement parasitée par toutes sortes d'influences culturelles grecques remises à l'ordre du jour, au goût du jour, par le siècle dit des Lumières, de notre histoire plus récente et de notre environnement culturel occidental. Notamment en ce qui concerne la séparation du corps et de l'âme, du spirituel, immatériel et du corporel. L'intellectuel, la pensée sans limite et le physique avec sa finitude et ses fragilités. Le tombeau vide de Jésus montre bien que sa résurrection est corporelle et non spirituelle ou immatérielle. Et ce nouveau corps est incorruptible pour exister dans la nouvelle création de Dieu déjà en devenir, aboutir à une restauration complète et non aboutie à ce jour. Pour les chrétiens des premiers siècles comme pour nous, Jésus est le Messie annoncé et ceux qui appartiennent à Jésus, nous les chrétiens, sommes appelés à le suivre dans la puissance de son esprit et nous sommes chargés à participer à la transformation du présent, réel et non simplement spirituel, à la mesure de nos moyens, en vue de ce futur, la création restaurée et transformée selon le projet de Dieu pour l'humanité. Un monde, une société en devenir, mais pas encore advenue. C'est également ce qui a initié la réforme au XVIe siècle, et en particulier la réforme dite radicale, revenir aux racines du christianisme des premiers siècles, vécu par les anabaptistes. Au fil du temps, pour les chrétiens, la résurrection est devenue une référence au baptême, le symbole de l'immersion, dans le sens d'un ensevelissement et d'un retour à la vie en Christ, ainsi qu'une référence à la nouvelle vie d'obéissance, d'éthique rigoureuse, rendue possible par le Saint-Esprit, à laquelle s'engage le croyant. Par sa résurrection, Jésus confirme qu'il est le Messie. La tradition juive ne le reconnaît pas comme tel. Il était attendu comme un libérateur, censé vaincre les païens malfaisants instaurer la justice divine sur terre, reconstruire et purifier le temple. Jésus est mort aux mains des païens. Pour la tradition juive, il ne pouvait être considéré comme loin du Seigneur. D'autres personnalités juives qui se sont révoltées contre la présence romaine auraient pu être considérées comme étant messianiques. Mais aucun n'a été à l'origine de l'essor d'un nouveau groupe qui, siècle après siècle, laisse émerger le christianisme. La conviction des premiers chrétiens que Jésus était le Messie conduit inéluctablement à l'affirmation que, pour eux, Jésus était Seigneur et donc que César ne l'était pas. Généralisation sur toutes les autorités civiles. Jésus est Seigneur, mais César ne l'était pas. La mort est l'arme ultime de tout tyran. Et au cœur de la résurrection, malgré de nombreuses incompréhensions, se trouve la conviction que la mort a été vaincue. Et ce sont des hommes et des femmes convaincus de la résurrection corporelle qui se sont laissés brûler sur les bûchers ou jetés au lit. Avant que, vers la fin du IVe siècle, le christianisme devienne respectable et respecté, avec, comme on sait, de nombreux aléas quand même, siècle après siècle. Le matin de Pâques, le tombeau est vide. Jésus est vivant, son corps est partiellement transformé. L'histoire de l'humanité change en profondeur, malgré la pression d'une soi-disant laïcité. L'histoire date toujours par rapport à Jésus-Christ. Comptage négatif avant Jésus-Christ et positif après Jésus-Christ. Puisque nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Qu'on le veuille ou non, la résurrection de Jésus est à l'origine d'un profond changement de la société humaine, même si ces changements n'ont pas encore atteint leur objectif final. Le monde, les sociétés sont en crise, les médias nous le rappellent quotidiennement. Pauvreté, guerre, changement climatique en cours. Quel est l'apport du christianisme dans ce monde ? Quelle est la présence de l'Église de Jésus-Christ, le ressuscité, dans le cours de l'histoire ? Essayons quand même de prendre un peu de hauteur et de recul. Les droits de l'homme, proclamés ici et là, sont inspirés par l'enseignement du Nouveau Testament. L'abolition de l'esclavage, la dénonciation de l'apartheid, l'abolition de la peine de mort, le respect de la vie, de toutes les vies, sont d'inspiration chrétienne. De tout notre cœur, nous appelons le royaume de Dieu à venir sur terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Un jour il reviendra. Les proches de Jésus, femmes et disciples, s'attendaient à un retour imminent. C'est pourquoi ils ont organisé l'église primitive à Jérusalem, comme le décrit le début du livre des Actes. Et ils ont mis par écrit l'enseignement de Jésus, en particulier de sa résurrection, que beaucoup plus tard. Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient déjà très âgés lorsqu'ils ont écrit leurs évangiles. Mais l'essentiel du message et de la bonne nouvelle de l'évangile nous est accessible ainsi qu'à la plupart des habitants de notre planète, grâce au travail de traduction et d'imprimerie de nombreuses personnes qui sont dévouées au texte biblique. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous avez reconnu le Matthieu 5, les béatitudes. Ne craignez pas, un leitmotiv de la naissance de Jésus à sa résurrection. Disciples de Jésus, nous sommes appelés à la fidélité et à l'obéissance. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la force, par son esprit, de participer à la construction d'une société paisible et juste, selon sa volonté. Amen.